traité de la réforme de l'entendement et de la voie qui mène à la connaissance vraie des choses. L'expérience m'ayant appris que tout ce qui arrive ordinairement dans la vie de tous les jours est vain et futile, et voyant que tout ce qui était pour moi objet ou occasion de crainte ne contenait rien qui fût en soi bon ou mauvais, mais seulement dans la mesure où l'âme en était émue, je résolus enfin de chercher s'il n'y aurait pas quelque chose qui fût un bien véritable et qui pût se communiquer. Un bien tel que l'âme, rejetant tout le reste, ne soit affectée que par lui. Mieux, y aurait-il quelque chose dont la découverte et la possession nous procurent pour l'éternité une jouissance souveraine et continue? Je dis, je résolus enfin. À première vue, en effet, il semblait inconsidéré de renoncer à quelque chose de certain pour quelque chose d'encore incertain. Je voyais clairement les avantages que procurent les honneurs et la richesse, et qu'il me faudrait en abandonner la poursuite si je voulais me consacrer sérieusement à quelque nouvelle entreprise. Et si d'aventure la félicité suprême tenait aux honneurs et aux richesses, je voyais bien qu'il me faudrait en être privé. Si au contraire, elle n'en dépendait pas, c'est alors en poursuivant exclusivement honneurs et richesses que je perdrais la félicité suprême. Je tournais et retournais donc dans mon esprit cette question. Est-ce qu'il ne serait pas possible de parvenir à cette nouvelle manière de vivre, ou du moins d'acquérir une certitude à ce sujet, sans toutefois changer l'ordre et la conduite ordinaire de mon existence? Ce que j'ai souvent tenté, mais en vain. Car ce dont il s'agit la plupart du temps dans la vie est ce qui passe auprès des hommes, ainsi qu'on peut le conclure de leurs actions pour le souverain bien, se ramène à ces trois choses, richesse, honneur et plaisir sensuel. L'esprit est à ce point accaparé par ces trois objets qu'à peine peut-il songer à quelque autre bien. Ainsi, pour le plaisir sensuel, l'âme en est dépendante, comme si elle avait trouvé le repos dans quelque bien, ce qui l'empêche au plus haut point de songer à tout autre. Mais la jouissance sensuelle est suivie d'une extrême tristesse, qui, si elle n'arrête pas l'activité de l'esprit, le trouble et en affaiblit l'acuité. La poursuite des honneurs et des richesses ne détourne pas moins l'esprit, surtout quand on ne les poursuit que pour eux-mêmes, leur conférant alors la dignité du souverain bien. Mais ce sont, plus que tout, les honneurs qui accaparent l'esprit, car on les tient pour un bien en soi, ainsi qu'un but ultime, vers lequel tendent toutes nos actions. De plus, richesses et honneurs, contrairement au plaisir sensuel, ne comportent pas en eux-mêmes leur punition. Au contraire, plus on possède des unes ou des autres, plus la joie s'en trouve accrue, tandis qu'au cas où notre espoir est déçu, survient une très grande tristesse. Les honneurs, enfin, entravent grandement la quête du vrai bien, en ce que pour les obtenir, il faut régler sa vie sur l'opinion de la foule, c'est-à-dire fuir ce que fuit la foule et courir après ce qui la fait courir. Voyant ainsi que tout cela m'empêchait de me consacrer à réformer ma manière de vivre, et même s'y opposer au point de me forcer à renoncer à un parti ou à l'autre, j'étais contraint de me demander ce qui me serait le plus utile. Je semblais en effet, comme je l'ai dit, vouloir abandonner un bien certain pour un bien incertain. Avec un peu d'attention toutefois, je trouvais d'abord qu'en renonçant à ces objets pour me disposer à une vie nouvelle, je renoncerais à un bien incertain, par sa nature même, ainsi qu'il ressort clairement de ce que j'ai dit. Et cela pour un bien également incertain, mais non pas, puisque je le voulais stable, incertain par sa nature, mais seulement par la possibilité de l'atteindre. Une méditation assidue me fit voir qu'alors, si seulement j'étais capable d'en décider résolument, c'est pour un bien certain que j'abandonnerais un bien incertain. Je me trouvais en effet dans un péril extrême et contraint de chercher de toutes mes forces un remède, fût-il incertain. De même qu'un malade souffrant d'une affection mortelle et voyant venir une mort inéluctable s'il n'applique un remède, doit le trouver à tout prix, si incertain soit-il, dès lors qu'il n'y a pas d'autre espoir. Or.